Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là ce matin avec vous. Un plaisir, pas moins dénué d'un soupçon de stress. Léger. Je suis très content. Ce matin, ma prédication s'appelle « Celui qui agit au-delà ». Et ce matin, je veux croire que Dieu va agir au-delà. Dans cette matinée, dans ce temps que j'ai de prédication, je crois que Dieu veut faire plus, qu'on a un Dieu qui agit au-delà de tout. Il y a un Dieu qui va dans, je l'appelle le Dieu de l'impossible aussi. Donc, le texte que j'ai pris ce matin, c'est Éphésiens 3, 20 et 21. Je lis, « Or à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce verset, je l'aime énormément. C'est Paul qui parle et il rend gloire simplement à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et moi, ce verset, il fait écho aussi à ma vie, à ce que j'ai pu vivre depuis toutes ces années où j'ai pu rencontrer Dieu. J'ai rencontré Dieu il y a 8 ans en arrière, 9 ans. C'était en boîte de nuit. Oui. Alors, c'était en boîte de nuit. J'ai rencontré Dieu par le biais de quelqu'un où j'étais en grand questionnement ce soir-là, perdu sur une piste de danse à essayer de draguer deux filles. Et très mal dans ma peau. Et quelqu'un est venu vers moi me parler et a eu les mots exacts qui ont touché mon cœur. Précis, c'était tellement précis parce que les minutes qui étaient juste avant cette personne, j'étais en train de me démoraliser, de me flageller en disant mais je suis nul, je suis pas bon. Enfin, et cette personne est venue me remonter et est venue me dire que voilà, Dieu existe et qu'elle était là, Dieu était là pour moi. Et la personne est repartie et je l'ai jamais revue. Je ne sais pas. C'était un peu improbable parce que déjà c'était une personne. Cheveux blancs, âgé, en pleine boîte de nuit, j'étais très surpris. Je me dis, ok, pourquoi pas, mais... Et je ne l'ai jamais revu. Et de là, a eu tout un cheminement. Pour vous expliquer, moi, je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Ma mère est mauricienne, mon père italien. Mon père est décédé quand j'avais 15 mois. Suite à ça, ma mère a essayé de refaire sa vie, mais elle a eu des hommes qui m'ont toujours considéré comme un poids. Je n'ai jamais été dans le projet de ces hommes-là, donc j'ai toujours vécu quelque chose de difficile. Et j'ai grandi, construit ma vie autour, enfin, avec ces cadres de vie, ce cadre de famille. Et arrivé à un moment où... Voilà, à l'école c'était difficile, tout était devenu très difficile, on me dessinait une vie difficile. J'ai grandi à Morges, donc j'avais, au niveau scolarité j'étais en VSO, c'était avant Armos. Hein. Et avant VSO j'étais en classe ressources, j'avais énormément de peine à parler. Ma mère me parlait en mauricien, donc le français je ne gérais pas du tout. Je suis dyslexique. Et jusqu'à il y a 6 ans en arrière, j'arrivais pas à parler devant les gens. Donc deux personnes, à partir de deux personnes, c'était trop. Pour soit clair, le groupe, au moins un groupe, ça a commencé à partir de deux personnes. Mais Dieu agit et il va au-delà de tout ça. Et ce verset, pour bien comprendre ce verset et pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse bien comprendre ce verset, j'ai voulu prendre 3 points et qu'on puisse le décortiquer ensemble. Donc mon premier point, c'est avant mon premier point. On va parler un petit peu, je vais juste remettre le contexte de cette lettre, la lettre aux Éphésiens. Alors, la lettre aux Éphésiens, on peut la découper en 2 grandes parties, les chapitres 1 à 3 et chapitres 4 à 6. Dans cette première partie, Paul est l'auteur de cette lettre, et il va développer toute sa doctrine, il va développer toute la, j'allais dire, la théorie, ce qui concerne Dieu, comment on devrait vivre, notre relation avec lui. Et à partir du chapitre 4 à 6, il va s'appuyer sur cette doctrine pour dire, bah, voilà comment on va vivre en pratique. Et au milieu, il y a un « donc ». C'est chapitre 4, verset 1. Paul commence en disant, « Je vous exhorte donc, selon les traductions, donc je vous exhorte à vivre en fonction de la doctrine, de ce que je vous dis. Et donc nos versets se trouvent au chapitre 3, les deux derniers versets, qui concluent première partie du développement de sa doctrine. Donc, trois points ce matin. Le premier point, c'est que Dieu agit en nous. Or, à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous. Dieu agit en nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous et il agit en nous. Dans le grec, dans d'autres versions, on peut voir que c'est que par la puissance qui a commencé une œuvre en nous. Et ce Saint-Esprit a commencé une œuvre en nous et nous transforme. Nous amène toujours de plus loin, nous amène à nous découvrir qui on est vraiment en Christ. J'aime cette idée de changement, mais souvent le changement fait peur, parce qu'on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le changement va amener un plus ou pas? Est-ce que ce que j'ai pu vivre avec Dieu, ce que je sais de Dieu, c'est que ce changement qu'on vit avec Dieu, c'est finalement une découverte, une révélation de qui on est vraiment en Dieu. Dieu ne va nous changer pas en une nouvelle personne, mais en qui on est vraiment. On va se découvrir. Et ce verset montre qu'on peut aller, par cette puissance qui agit en nous, on peut découvrir des choses qui sont cachées et qu'on n'aurait jamais imaginées. Le Saint-Esprit fait cette œuvre. Paul va parler dans 2 Corinthiens 3, 18, va parler de cette œuvre que le Saint-Esprit fait, avec ce verset qui dit « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ce verset, il veut appuyer encore en disant « C'est ce Saint-Esprit qui vient agir, qui vient transformer, nous transformer, en qui on est vraiment, en cette image de Christ, et vient nous libérer. » Et comme j'ai dit, lorsque je me suis converti, voilà, j'étais dyslexique, j'étais pas à l'aise de parler devant plus de deux personnes. J'avais surtout des rêves, et il y en avait un pour moi qui était fou. Et à un moment donné, quand j'étais petit et qu'on allait à l'église, donc j'avais trois grands rêves. C'était le premier, c'était dessiner des maisons. Après, c'était pompier. Et après, pasteur. Et j'aimerais quand même dire pasteur, c'était la raison principale, c'est parce qu'on travaille que le dimanche. Après, j'ai quand même réalisé que non. Voilà. Je suis dans mes calculs. J'ai fait une formation de dessinateur en bâtiment. J'ai été pompier volontaire. Et à un moment donné, quand j'ai terminé ma formation de dessinateur en bâtiment, J'ai voulu prendre du temps avec Dieu. Et j'étais loin d'imaginer ce que Dieu était en train de me préparer, ce que Dieu était en train de préparer dans le cœur. Et lorsqu'on peut voir Dieu agir, c'est vraiment incroyable parce que, comme je le disais, c'est pas contre nous, c'est pas contre notre personnalité, c'est pas contre qui on est. Il a un plan, il a quelque chose qui va nous développer, qui va nous amener plus loin. Un des plus grands points où Dieu m'a transformé, c'est que j'étais un très grand timide. Un très très grand timide. Et pour moi, ça veut dire que j'étais introverti de base. Donc je suis timide, je suis introverti, je ne parle pas, je ne dis rien. Avec mon histoire et mon vécu, j'avais pas le droit de parole. Pour moi, j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit, j'avais pas le droit d'exister même. J'avais aucun avis à donner, donc j'avais jamais aucun avis à donner sur quoi que ce soit. J'étais à l'image des gens, comme ce miroir, je m'adaptais à tout le monde. Et Dieu m'a transformé là-dedans, où il m'a, par des versets qui étaient durs à des fois à dire, ces premiers versets qui « Je suis une créature merveilleuse » par exemple, où c'était dur de dire ça. C'était dur de dire ça parce que c'était reconnaître que je suis une créature de Dieu, qu'il m'a fait et que j'avais le droit d'exister. Tellement dur que des fois, avec ma femme, avant fiancée et copine, m'a encouragé à le dire encore et à le proclamer. Il me dit, mais va le dire à des gens. Je dis, oui, mais j'arrive pas. Déjà, j'arrive pas à le dire à moi-même. Je peux pas aller le dire à des gens. Je fais, tu peux pas dire ça à des gens. Bah, c'est simple. Il y a un champ, tu vas le dire à la vache. Ok. Ma femme est merveilleuse. Je suis allé devant ce champ, j'ai vu la vache. Je fais, vache. Je regarde bien s'il y a bien personne particulier. Mais j'ai commencé comme ça, tu sais que je suis une créature merveilleuse. Ouais. Et puis j'ai regardé la vache, ça, c'est quand même ridicule ce que je suis en train de faire. Puis il y a des moutons, puis je regarde les moutons, je dis, le mouton, tu sais que je suis une créature merveilleuse. J'ai commencé à le faire avec tous les animaux qui étaient là. Il y a des moutons, à un moment donné, ils sont partis. Je dis, non mais c'est intéressant ce que je dis. Bah voilà. Dieu agit au-delà. Dieu nous transforme. Dieu agit en nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Et lorsque Dieu agit en nous, c'est pour nous amener plus loin que nous-mêmes. Lorsque Dieu agit en nous, il va faire qu'on déborde d'amour. On est là, on a envie de plus. C'est pour nous sortir de cet égocentrisme qu'on peut avoir, ce regard tourné sur nous. Et lorsque Dieu agit en nous, il nous amène à voir plus loin que nous-mêmes. Et infiniment au-delà. C'est mon deuxième point. Dieu nous amène à voir infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Le mot penser, c'est aussi saisir. Donc c'est assez grand. Il va voir vraiment infiniment au-delà. Et lorsque Paul va parler et il prend cette phrase, les chapitres avant, il développe vraiment une pensée entre les juifs et les non-juifs. Et il conclut avec ça. Et il y a des versets qui sont très, très intéressants à lire et à comprendre, pour bien comprendre cette phrase. Alors c'est après, c'est Éphésiens 2, 14 et 15. Je vous les lis. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a uni lui-même en établissant la paix. Paul, quand il dit « Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser », je peux pas m'empêcher de lier ce verset à ce qu'il est en train de dire là, à Éphésiens 2, c'est que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, dans toute l'histoire juive, il y avait le peuple élu, il y avait le peuple de Dieu. Et Dieu a agi avec eux, a fait grandir, a vécu avec ce peuple-là. Et il leur donne des lois avec Moïse. Et on veut voir trois types de lois. Il y a une première loi qui est une loi morale, que pratiquement tous les peuples ont, c'est tu ne tueras point, tu ne voles pas, qui est encore valable encore aujourd'hui, hein, c'est toujours bon de ne pas tuer. La deuxième loi, qui est plus une loi qui va avec les fêtes agricoles, les coutumes, donc le peuple juif vit énormément de ses fêtes agricoles. Nous, on a nos fêtes, le 1er août, le jeûne fédéral, c'est nos fêtes à nous. Et il y avait cette troisième loi où les juifs étaient vraiment fier de cette loi, parce que c'était le seul peuple qui avait cette loi-là. Et humainement, elle a ni queue ni tête, en fait. Elle n'a pas de raison d'être. C'est cette loi dans cette loi, c'est écrit que chaque juif devra se faire circoncire, qu'il y a des animaux impurs et des animaux purs, qu'il y a certains rites qu'il faut faire à certains moments. Et cette loi-là les a séparés du reste du monde. Cette loi-là, Lorsque le peuple hébreu est en exil à Babylone, va les garder, va faire en sorte qu'ils ne sont pas assimilés au reste. Cette loi est une protection de Dieu pour son peuple. Et lorsque Jésus arrive, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Et vient accomplir cette troisième loi-là. Et il vient, comme Paul dit, cette troisième loi, elle est annulée par les effets, par la mort de Christ. Et donc, ce qui nous séparait avant de l'alliance, ce qui nous séparait des Juifs, est annulé par Christ. Christ vient l'accomplir. Mais pour un Juif, c'est impensable. C'est inimaginable. Parce que ça fait partie de son histoire, de sa vie. Lorsque Paul dit ça, Paul est en train de dire, mais Dieu a fait infiniment au-delà de ce que vous auriez pu tous penser ou imaginer. Et Dieu veut faire infiniment au-delà, dans nos vies, dans nos églises. Ce matin, j'ai eu une très grande surprise quand je suis arrivé. Parce que quand je me suis converti il y a 8 ans en arrière, en boîte de nuit, après, il y a eu tout un cheminement. Et une des premières choses qui m'est arrivée, c'est que j'ai fait un week-end dans mon groupe de jeunes à Morges. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller, j'avais vécu des souffrances dans le groupe de jeunes, je ne voulais pas y retourner. Mais il y avait une dame qui faisait la cuisine que j'aime énormément. Et elle m'a dit, oui, mais viens au week-end, tu m'aideras à faire la cuisine. J'ai fait, d'accord, je viens comme aide-cuisinier, mais pas comme participant. Ça, c'est sine qua non, c'est tout. J'arrive, je dis au responsable du groupe de jeunes qui est hyper content de me voir arriver. J'ai dit, non, mais c'est cuisinier, hein. Oui, oui, pas de souci, on a une soirée qui organise le week-end, viens, t'organiseras avec nous. Ouais, t'es cuisinier, ok. J'arrive, on organise la soirée, il y a pas mal de responsables, je me dis, mais bon, c'est cool. On arrive au week-end, et c'est au week-end, d'un coup je fais, mais que je réalise que tous les participants sont les cuisiniers. Ce qui me rétrograde au statut de participant. Et là, voilà, ok. Ça marche. Et ce que je veux dire, Dieu a fait infiniment au-delà parce que notre orateur, dans ce week-end-là, c'est quelqu'un qui a touché mon cœur de jeune croyant, qui a éveillé mon envie d'étudier la parole. Et je crois vraiment que cette envie d'étudier, d'aller plus loin, a commencé dans ce week-end. Et autant cette personne que moi, je crois qu'on n'était pas consciente que Dieu allait faire infiniment au-delà de ce qu'on pensait ou imaginait. Et cette personne, je ne l'ai pas vue depuis 8 ans. Je ne me rappelais pas de son prénom, rien du tout. J'arrive ce matin, il est au piano. Je regarde, c'est lui. Avec Narnia. Je me rappelle de ses prédications, de ce qu'il a dit. Je me dis, c'est lui. Il était là. Donc, merci beaucoup. Autant Roger que moi, je pense qu'on n'imaginait pas ce que Dieu allait faire. Parce que Dieu a fait infiniment au-delà de ce que moi j'attendais de ce week-end, de ce que moi j'allais vivre. Et je pense que Roger n'imaginait pas ce que Dieu allait faire avec moi lorsqu'il a prêché sur Narnia, lorsqu'il en a pris du temps, il m'a expliqué tous les livres, les parallèles. J'étais fan, j'étais « Ah oh, non, mais moi je ne veux plus aller, je ne veux même plus faire la cuisine, je veux juste prendre du temps avec lui, explique-moi encore, je veux comprendre. » C'était incroyable. Dieu fait infiniment au-delà. Le dernier point, c'est un cœur rempli d'espérance. Et Paul dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette phrase, moi, elle me touche. Surtout de la part de Paul, parce que lorsque Paul écrit cette phrase, il est en captivité, il est en prison. Il est en prison à Rome. Et moi, dans cette phrase, je vois un Paul qui a une espérance en Christ, une foi, une confiance, un amour. Il sait que Dieu est là et qu'il veut le meilleur pour lui, il veut le meilleur pour son Église. Et malgré sa situation personnelle, malgré ce qu'il vit, il arrive à proclamer, il arrive à dire à ses paroles, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ. Et il est tellement confiant, et il connaît cet amour, et c'est un des thèmes de l'épître d'Éphèse, c'est l'amour de Dieu qui développe tout au long de cette épître. Il est tellement conscient de cet amour de Dieu, il a une telle confiance en Dieu qu'il arrive à le dire que cet amour, ce Jésus, ce Saint-Esprit, il ne va pas changer. Ça sera le même, c'était le même hier, aujourd'hui et demain, au siècle des siècles, jusqu'à la fin. Et que là, c'est une des seules choses qui ne, qui va durer pour l'éternité. C'est cet amour de Dieu, cet amour qu'il a pour nous. Et sur ce dernier point, je me pose la question, avons-nous cette même assurance que Paul de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est conscient que Dieu veut le meilleur pour nous? Tout le temps. Qu'il y a des portes qui se ferment pour notre meilleur, mais qu'il y a des fois, il nous pousse à aller au-delà pour le meilleur, pour notre meilleur, que Dieu est bon et qu'on peut lui faire confiance. Cette connaissance de l'amour pour Paul, c'est son moteur de vie, c'est ce qui va le faire avancer. Il n'avance pas par peur, mais par amour, par confiance. Et par ce forfait, oui, Paul veut affirmer son assurance en Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi concerné par ce verset, on est aussi concerné par ce même Dieu qui a fait ses prodiges, qui a fait ses changements, qui a agi à l'époque de Paul. C'est parce que l'amour de Dieu est le même aujourd'hui et qu'on a accès à cette relation, on a accès à cet amour, on peut être en communion avec lui. Et si vous deviez retenir qu'une seule phrase de ma prédication ce matin, une seule idée, ça serait la suivante. Connais tes limites et laisse Dieu t'amener plus loin qu'elles. Dans cette prédication, mon cœur, ce n'est pas dire « vas-y, il faut y aller, il faut aller plus loin, toujours plus ». Connais-toi, connaissons nos limites. Moi, je sais mes limites, je connais mes craintes. Mais je refuse de me laisser enfermer par ça. Je laisse Dieu m'amener plus loin, infiniment plus loin que ce que je peux imaginer ou penser. J'aimerais terminer ce matin en nous posant une question ce matin. C'est qu'est-ce qui définit... Avant la question... Dans ma conclusion, ce que je veux dire, c'est ne laisse pas tes limites définir qui est Dieu, mais laisse Dieu définir tes limites. Des fois, on a des limites, on a des peurs, on a des craintes, et on peut se dire, mais non, je ne peux pas, pas plus, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible de devenir pasteur, c'est pas possible de faire 3 ans d'études en théologie et puis de se marier la même année, alors qu'on a 0 fonds. Je l'ai fait, on l'a fait, et Dieu bénit. C'est pas possible. Ne laisse pas tes limites définir qui est Dieu ou l'action de Dieu, mais laisse Dieu définir tes limites. Et comme j'ai dit au début, Dieu va te pousser toujours à aller plus loin, mais pour un meilleur, pour être plus qui tu es vraiment, qui nous sommes vraiment en Dieu. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis quelqu'un d'extraverti. J'aime le contact avec les gens, j'aime parler. Et j'ai dû faire un deuil sur l'introverti que j'étais. Mais j'aime l'extraverti que je suis aujourd'hui. Et c'est moi, en fait. C'est vraiment moi. La timidité, ce n'était pas moi. Il y a des gens introvertis et ils sont incroyables. Et c'est qui ils sont. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous pousse à être le meilleur, la meilleure version de nous-mêmes, d'être transformés de gloire en gloire. Alors, la question de ce matin... C'est... Qui est-ce qui définit tes limites dans ta vie? Qui définit nos limites dans nos vies? Est-ce que c'est toi, moi, ou est-ce que c'est Dieu? Je vais simplement terminer en priant. Mais Seigneur Dieu, moi je veux proclamer que tu es ce Dieu de l'impossible. Tu es ce Dieu rempli d'amour en qui on a confiance. Et ce matin, on veut dire, Seigneur, oui, on veut te faire encore plus confiance. On veut te dire, définis nos limites. Seigneur, moi je veux nous remettre entre tes mains. Et donne-nous encore de vivre encore plus de ton impossible. Donne-nous de vivre encore plus infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Dans le nom de Jésus. Amen. Encore une chose. Si ce matin, vous vous dites, moi je veux que ce soit Dieu qui définisse mes limites, je vous encourage à faire une chose, c'est à bannir de votre vocabulaire le mot impossible. Et à chaque fois, et je nous encourage à le faire avec les gens dans l'église, quand quelqu'un arrive ou qu'on se dit, mais c'est impossible, pas lui dire, non, mais bannis ça, mais on dit, mais on prie alors. Si c'est impossible, on prie et on voit Dieu agir. Et on verra Dieu agir. Changez-le dans votre dictionnaire, changez le mot impossible par prière. Et voir Dieu agir dans l'impossible. Merci.